Bonjour et bienvenue au One Eye Club, le podcast qui se balade au FIBD. Alors là, après un périple de plus de 7 heures pour rejoindre Marseille à Angoulême, j'arrive dans les rues, je viens de me faire loger ce sympathique habitant, c'est un très bon plan. Et je suis en train de me rendre vers les Bulles. Vais-je trouver ma route? Je vous promets un programme terrible avec beaucoup de rencontres surtout. Parce que, effectivement, je vous avoue que les expositions en audio, c'est pas super sympa. Et je vous dis donc à bientôt. Pour notre première interview, nous recevons Bertrand Gatignol, le dessinateur de la bande dessinée Pistouvie et aussi de Jeanne, qui, à ce que j'ai cru comprendre, c'est Pistouvie découpé en album traditionnel, c'est ça ?
Oui, c'est surtout un album traditionnel, oui, pour le format, mais surtout l'idée c'était d'offrir une lecture très différente, juste par la mise en couleur, c'est-à-dire vraiment sur une même histoire. De proposer deux lectures différentes. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est plutôt, entre guillemets, adulte et assez sombre, qui est la version noir et blanc, en petit format, 180 pages, et une autre qui est plus. Une entrée qui est peut-être plus optimiste, je sais pas, ça sera peut-être plutôt aux auditeurs de le dire, mais. Qui est Jeanne. C'est-à-dire, et voilà, donc c'était. C'est d'où aussi l'idée d'avoir changé le titre, c'est-à-dire d'avoir. Un axe de lecture noir et blanc par l'intermédiaire de Pistouvie et un axe de lecture en couleur par l'entremise de Jeanne. C'est pour ça que c'est deux visions différentes de la même histoire.
Il y a eu, en fait, c'est quelque chose de redessiné. Il y a eu une réécriture, une.
C'est pas du tout redessiné. En revanche, il y a eu un travail de mise en couleur très poussé entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je voulais vraiment apporter quelque chose d'extrêmement différent. C'est-à-dire que pour pas que ça soit en gros le même album en plus grand, et on a fait des pots de peinture dedans et on a rajouté de la couleur parce qu'on aurait pu faire ça, mais je trouvais que pour le lecteur il était vraiment important d'apporter quelque chose en plus, donc la couleur a vraiment été travaillée dans ce sens là c'est-à-dire qu'elle a un impact narratif qui est très très important. C'est pour ça que les couleurs sont très saturées, qu'elles sont très fraîches. L'idée que j'avais en tête pour la mise en couleur, c'est qu'il fallait qu'on ait la sensation, en voyant la couverture ou en ouvrant l'album, d'ouvrir une boîte de bonbons, c'est-à-dire vraiment d'avoir une boîte de Smarties ou de bonbons Haribo, c'est-à-dire d'avoir cette espèce de sensation de fraîcheur et d'avoir envie de picorer cet univers-là, quoi.
Parce que moi, j'ai vu un peu sur ton book, il y a une grande variété de styles. Et j'ai d'ailleurs un travail sur la couleur, sur les ombres chinoises, tout ça, qui est très, très varié. Tu as travaillé dans l'animation, mais dans des genres super différents. Tu as besoin de cette diversité dans les styles, d'essayer des choses différentes, ou bien c'est parce que tu essayes vraiment, toi, de t'approprier à l'histoire que tu racontes?
Alors, les deux. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant. J'ai, et pour le travail et pour moi-même, c'est-à-dire que l'idée c'était de couvrir un champ et un spectre assez large d'expression graphique, parce que j'ai une approche finalement du dessin et du cinéma ou de la bande dessinée qui est assez proche finalement d'une création d'alphabet. C'est-à-dire que pour moi, une image, ça raconte un propos. C'est-à-dire que c'est là pour servir une idée, c'est là pour servir un texte, c'est là pour servir quelque chose qui est raconté. Donc, il faut jamais que le dessin passe, ou l'expression graphique passe avant le fond. C'est-à-dire que le plus important, c'est que vraiment on se souvienne du dessin, mais plus de ce qu'il exprime plutôt que du dessin lui-même. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours essayé de travailler différents styles graphiques, parce qu'à chaque fois je devais m'adapter à différentes contraintes. c'est-à-dire des contraintes plus ou moins ados, plus ou moins enfants, plus ou moins sombres, plus ou moins gays. C'est pour ça que les, en fonction des magazines ou des films sur lesquels j'ai pu travailler, il fallait exprimer une idée qui n'était pas toujours la même. Donc c'est pour ça que c'est assez, assez varié.
Moi, j'ai essayé de. On essaye toujours de classer les styles des auteurs. Moi, je mettrais ça dans la world BD, c'est-à-dire on voit que t'as lu du comics, on voit que t'as lu du manga, que t'as vraiment tout mixé. Ton style s'est forgé en allant piocher un peu dans tous les sens, comme ça.
Il s'est fait assez inconsciemment, c'est-à-dire que je suis finalement, je suis plus lecteur de romans pour la. Pour les histoires ou pour ce que ce qui a pu me toucher. Mais maintenant, c'est vrai que moi, quand j'étais petit, c'était plutôt le quand j'étais tout petit, c'était la BD franco-belge. En début d'adolescence, ça a été le comics avec l'Estrange, Spider-Man, etc. Et ensuite, ça a été au milieu d'adolescence jusqu'à mes 20 et quelques, et même encore maintenant, ça a été le manga. C'est-à-dire que et je pense que c'est aussi pour ça que je réfléchis pas trop à savoir de quel côté je vais être inspiré ou pas. C'est-à-dire que dans tous ces mois, toutes ces expressions graphiques, elles ont toutes quelque chose de positif et elles ont toutes des qualités très fortes qui peuvent servir à raconter une histoire. Donc j'ai été pioché très certainement partout, mais vraiment très inconsciemment.
Parce que moi, je vois tout ce qui est un peu action. C'est vrai qu'on a vraiment ce côté manga, des grands dessins, des planches avec... Enfin, pas la surdécomposition qu'on peut avoir à l'européenne, pas la pleine planche qu'on peut avoir à l'américaine, ouais. Mais quelque chose de très rythmé.
C'est vrai que moi, je pense que là, pour le coup, c'est une BD qui m'a marqué, ou un auteur qui m'a marqué au fer rouge. C'est Katsuhiro Otomo. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce qui... J'ai pas cherché à faire du Katsuhiro Otomo, par exemple. Mais pour moi, c'est la narration absolue, c'est-à-dire que on est pile poil dans un truc qui peut pas se faire au cinéma, qui peut se faire en dessin animé, mais c'est laborieux, et qui a tout son sens aussi en BD. Donc, on est dans un type de narration qui, selon mes goûts, se rapproche vraiment de entre guillemets de la perfection, parce que c'est pas très malin de dire ça, mais voilà, c'est vraiment. Mais donc, ce qui fait que très inconsciemment, je pense que j'ai dû reprendre des choses, ou il y a des choses qui ont dû ressortir de ce côté-là, quoi.
Tu viens de l'animation. La BD t'y est venue. Enfin, en général, on va pas vers la BD pour l'argent, ce que j'ai cru comprendre. C'était vraiment quelque chose que tu voulais faire tout de suite, la bande dessinée, ou tu as eu une opportunité, tu t'es dit « Ah, ce projet-là, c'est celui qu'il me faut ».
C'est un petit peu. Ça s'est fait de manière un petit peu étrange, c'est que je. Un ami d'école qui s'appelle Merwan Chaban, qui a donc écrit le scénario de Pistouvi, en fait, à la base, faisait des films d'animation, mais en court-métrage. Et moi, je faisais de l'animation, mais pour de la série, mais j'ai créé ma série, et globalement, j'étais toujours. Embauché comme auteur graphique, donc j'ai jamais vraiment complètement souffert du travail de commande, parce que finalement on me laissait pas mal m'exprimer, donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là.
Même t'as bossé sur Iron Man, je crois aussi. Même sur Iron Man, t'avais des libertés.
C'est mon style graphique en fait, donc ce qui fait que j'ai créé le personnage, j'ai proposé vraiment pour le main pack, ce qu'on dit, c'est vraiment pour les personnages principaux. Tout était à faire, donc on est parti à Los Angeles voir Marvel pour proposer le design de Pepper Pot, par exemple, qui était a priori rousse, mais on devait l'adapter sur un personnage plutôt adolescent. Donc je suis allé plutôt piocher du côté des Shibuya Girls et des trucs comme ça. Donc c'est pour ça qu'elle a les cheveux rouges, elle est un peu plus délurée que la version comics finalement. Et donc la raison pour laquelle je suis arrivé à la BD, c'est que on travaillait avec Merwan ensemble un jour, et on était très fatigués de travailler en animation, parce que c'est finalement beaucoup moins solitaire que la bande dessinée, mais c'est tout aussi difficile, si ce n'est un peu plus, parce que il y a des problèmes de budget, il y a des problèmes de, enfin c'est une grosse artillerie quand on travaille en dessin animé. Il y a beaucoup de choses à gérer. Et on s'était dit que fallait qu'on fasse un projet ensemble où finalement on avait de contrat à rendre à personne, excepté un éditeur. Mais c'est-à-dire qu'on fait une histoire, on la dessine, on la propose, c'est validé, c'est pas validé, et voilà. En gros, c'est, l'idée est partie de là. Donc ça s'est plus trouvé sur une histoire d'amitié que sur un projet éditorial ou sur un projet de carrière quelconque. C'est-à-dire que ça a été vraiment pour le plaisir, quoi.
Le fait de travailler avec un dessinateur, est-ce que au niveau de la façon dont vous travaillez, est-ce qu'il te propose déjà un prédécoupage très précis, très graphique, ou est-ce que tu as vraiment une liberté, un scénario beaucoup plus libre, assez libre ?
Oui, je suis une liberté. En fait, Merwan me proposait un découpage assez classique finalement, c'est-à-dire que tout est écrit à la page, c'est-à-dire que dans telle page, dans la page 1, il doit se passer ci, ça, ça et ça. Mais finalement, il n'a jamais été. Il n'est jamais trop intervenu, même pas du tout, sur le découpage. C'est-à-dire que moi, j'ai rajouté beaucoup de pages, par exemple. C'est-à-dire que pour Pistouvi, il y a un fond qui, pour moi, est très, très fort. Et pour exprimer toutes ces idées-là, il y a pas mal de fois où j'ai dû rajouter, pour, selon moi, exprimer l'idée au mieux. J'ai rajouté une page ou deux pages pour pouvoir vraiment. Faire pousser la graine, en fait, la faire germer. C'est-à-dire vraiment, finalement, c'est une espèce d'exercice botanique, quoi. C'est-à-dire qu'on a, un agronome spécialiste qui est Merwan, qui m'a offert des graines superbes. Moi, mon boulot, c'était de les faire pousser, quoi. Donc j'ai eu du bol parce que c'était de bonnes graines. Voilà.
Je retrouve ma question. Au niveau du mouvement, justement, au niveau de la narration, comment est-ce que tu abordes la narration de la bande dessinée par rapport à la narration en animation qui est assez différente, en fin de compte? Là, tu as une contrainte de planche, tu as un cadre à la fois plus ouvert mais à la fois plus restreint.
Ce qui est très différent, c'est que je suis étonnamment, même si la majeure partie de mon activité est en animation, je suis plus lecteur de bande dessinée que spectateur de dessin animé. Et je pense que il y a quelque chose qui y a en BD qu'il n'y a pas en dessin animé, c'est que à la fois le cadre est restreint parce que c'est un format de page, on va dire un format A4, mais dans ce format-là, le format peut éclater. Et tout, pour moi, vient de la force de la BD, elle est là. C'est-à-dire qu'on peut créer la temporalité, l'étirer, la restreindre. Je me suis appliqué justement dans Pistouvi à explorer ce médium. On est à la fois contraint, donc ce qui donne une assise pour le lecteur. Il sait où il est. Et en même temps, cette contrainte-là, on peut tout éclater à l'intérieur. Alors qu'au cinéma, ce qui est très difficile, c'est que là, pour le coup, on ne peut jamais, jamais, jamais changer de cadre. C'est-à-dire qu'un cadre, les images se superposent les unes aux autres et on est dans un rapport qui est fixe. Sauf exceptionnellement quand on coupe une image en plusieurs, mais tout de suite, ça référence beaucoup la narration et on est dans d'autres types de cinéma. Alors qu'en BD... C'est ça, c'est vraiment un vocabulaire graphique, quoi. C'est-à-dire que c'est comme en littérature, c'est-à-dire qu'il y a des lettres, on crée son alphabet et puis après on s'amuse avec et on recrée du temps, on recrée des émotions en les emboîtant les unes avec les autres, et simplement juste parfois la confrontation d'une page blanche et d'une page noire va juste créer un effet visuel et physique sur le lecteur qui va exprimer une certaine émotion. Et donc voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver ce vecteur-là pour parler au lecteur. C'est vraiment le plus important.
Alors, on va parler un peu côté édition. Tu arrives quand même avec un projet noir et blanc, avec toi qui as grandi le nombre de pages au fur et à mesure, etc. C'est sorti dans un petit format. C'est pas en général très vendeur. Enfin, en tout cas, sauf si on fait du manga. Comment est-ce que vous avez réussi à dire à l'éditeur c'est ça qu'on veut ? Et est-ce que le projet couleur était déjà lancé en parallèle ?
Alors là, c'est là où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Et merci à Dargo. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec un projet noir et blanc et le projet leur a plu. Et moi, j'avais vraiment pensé en noir et blanc. Et, j'avais fait des dessins en couleur comme ça, mais juste de recherche parce que j'avais l'habitude en anime de faire des trucs comme ça, juste de la recherche graphique pour étayer le dossier. Et en fait, ils m'ont demandé, mais on le fait en couleur ou pas ? Moi, j'ai dit, bah non, moi j'ai prévu en noir et blanc. Si vous voulez la couleur, moi je veux bien la superviser, mais je la ferai pas parce que c'est un boulot à part entière. C'est un truc que je veux pas bâcler. Donc, et vu que je me sentais pas la force de faire de la couleur sur 150 pages, voilà. Et là, c'est là où Philippe Osterman, pardon, a eu comme ça une espèce d'impulsion. Il dit mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire une expérience éditoriale ? C'est que vraiment on offre deux lectures. Une version noir et blanc et une version couleur, complètement assumée. Et en fait, l'idée est venue de là, c'est-à-dire que c'est à la base une idée de chez Dargo, quoi.
Et là, tu t'es dit, ah bah l'idée me plaît, finalement, je fais la couleur.
Alors, j'ai pas fait la couleur, justement, j'ai travaillé avec Nathalie et Arnaud, qui avaient fait déjà les couleurs de ma série qui s'appelle Mikido. Qui avait été, en gros, moi j'étais le créateur et le directeur artistique de la série, et il me connaissait, c'est-à-dire il connaissait mes goûts, il savait déjà comment je travaillais et dans quel type d'ambiance colorée j'aimais aller, et j'ai travaillé avec eux. Donc là, pour le coup, ça a été ça s'est passé comme le mieux du monde possible, c'est que finalement j'ai travaillé avec des gens ultra compétents qui ont fait un travail extraordinaire, et en plus je suis content du résultat. Donc là, à l'heure actuelle, j'espère que la suite des événements en BD se passera toujours comme ça, c'est-à-dire d'avoir un éditeur emballé, d'avoir un scénariste qui sort une bonne histoire, des coloristes qui font un travail génial, et ensuite que l'album soit porté, soit soutenu par éditeur. Voilà. Donc c'est un peu... je ne sais pas combien on en vendra, je ne sais pas si ça marchera, mais en tout cas, c'est un bébé heureux, c'est un bébé réussi pour moi.
Pistouvi va être découpé en combien de Jeannes ?
Pardon ?
Pistouvi est découpé en combien de Jeannes ? 3, c'est ça ?
Deux Jeannes. Ouais, deux tomes, en gros deux tomes de 100 pages.
Et il y a une suite de prévues ?
Alors je veux pas spoiler la fin de l'album, mais...
La fin donne envie qu'il y ait une suite quand même.
Il serait difficile de faire une suite a priori si on se tient à ce qu'on s'est donné. Maintenant, rien n'est impossible. Hein. Ça, il faut surtout en parler avec Merwan, voir si... En vrai, c'est compliqué, c'est que... On a donné beaucoup de choses dans Jeanne et Pistouvi qui, pour lui donner vie, donc il y a beaucoup d'émotions réelles qui ont été insufflées dans le bouquin. Ce qui... Je me méfie toujours, moi, et donc de moi-même, là, en l'occurrence, de faire un peu... d'être dans un truc logique. Bah oui, bien sûr, ça a plu, on va faire la suite de manière automatique. Et parce que je pense que ce qui a plu, c'était une émotion qui tenait à un fil. Et je sais pas si maintenant, si je me relançais maintenant, en tout cas, tout de suite, demain, on se dit qu'on fait la suite, ce serait un vrai faux ami de repartir sur un truc qui fait « Ah bah oui, bah, Pistouvi, il est mignon, donc je vais dessiner un truc mignon. » Et là, je pense que ça marcherait pas.
C'est vrai que, enfin moi... Là... C'est l'univers, l'ambiance générale, tous ces personnages, ce ton, etc. On a envie de voir plus de cet univers, en fait.
Oui, ça donne envie de voir plus loin. Mais c'est... On verra ce qui... Je peux rien...
Il faut l'histoire, quoi.
Il faut l'histoire, et puis il faut l'envie, et puis il faut plein de choses. C'est vraiment un... Vous l'avez lu, donc vous voyez de quoi il s'agit. C'est un scénario très atypique, un découpage atypique. C'est vraiment de la broderie, donc c'est complexe, on peut pas... S'il y a une suite, ce sera pas vraiment une suite, c'est vraiment un objet vraiment à part entière. Enfin, c'est un exercice qui est assez inverse de ce que j'ai l'habitude de faire en animation, c'est-à-dire qu'en animation, on norme complètement les personnages, on norme le concept et après on norme les scénarios. C'est-à-dire que vraiment il y a un début, un milieu, une fin. Là c'est très expérimental finalement. C'est-à-dire qu'on a vraiment le cul entre plusieurs chaises. C'est pas vraiment pour enfants, c'est pas vraiment que pour les adultes. C'est pas vraiment manga, c'est pas vraiment. Enfin, c'est au milieu de beaucoup de choses. Donc, je pense que là, à l'heure actuelle, il serait un petit peu audacieux et présomptueux de dire qu'on va réussir un deuxième coup sur l'idée qu'on le décide. Voilà, je pense que j'adorerais. Hein, mais je, voilà, il faut toujours se. Enfin, avec Merwan, on se méfie de ça en tout cas.
Des projets en BD encore ou tu restes sur l'unité?
Il y a d'autres projets avec Merwan justement et d'autres projets avec des amis dont je ne peux pas encore trop parler parce que c'est mi-écrit et voilà, donc je ne peux pas encore mais en gros il y a 3-4 projets de BD sur lesquels qui sont en train de mûrir doucement mais sûrement.
Tu penses réussir à mûrir 3-4 projets de BD en même temps que l'animation?
Ben oui, c'est faisable. C'est faisable. Faut pas se disperser. Il faut rester très clair dans sa tête. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Pistouvi, c'est pas fait entre le moment de l'idée, le moment de l'écriture du scénario et la fin. Il s'est passé 4 ans, je pense. C'est-à-dire que Merwan, il a écrit le scénario. Au bout de 2 ans, j'ai dû faire les 3 premières planches qu'on a présentées à Dargo. Et après, je m'y suis pas mis tout de suite parce que j'avais encore des trucs en anime. Donc ça a vraiment été très très lent. Très très lent.
C'est un truc qu'on fait dans notre podcast, c'est que l'idée c'est que les gens nous parlent des BD qu'ils aiment. C'est quoi ton dernier coup de cœur en BD?
Mon dernier coup de cœur en BD. Attends. J'ai pas de coup de cœur instantané qui me viennent là. Moi je suis un gros lecteur de manga, J'aime pas dire ça non plus parce que. Mais globalement, ce qui me plaît est plutôt du côté du Japon, en général. Parce que j'aime la manière, finalement, entre guillemets, plus littéraire et plus cinématographique qu'ils ont d'aborder la narration. Et c'est vrai que. Après, il y a un gros travers, c'est qu'ils rallongent vraiment trop la sauce. Et au bout d'un moment, on se dit, mais merde, faut arrêter parce que ça suffit. Mais il y a. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé récemment? Ah, c'est la colle. Aïe. Qu'est-ce que j'ai aimé récemment? Alors, ça, c'est vrai. Hélas, c'est vrai. Ou heureusement, c'est vrai. C'est le dernier album de Merwan.
Le Bel Âge.
Le Bel Âge, voilà. Qui est... Et c'est pareil. Après, moi, je connais le fond de l'histoire, mais c'est un album qui germe depuis, je sais pas, au moins 6-7 ans, au moment où il faisait ses courts-métrages. Il a toujours eu un travail assez anthropologique, entre guillemets, une approche d'études assez socio-culturelles des gens, et en particulier des jeunes, des jeunes, c'est de cette tranche d'âge-là. Et en fait, il a, pour moi, c'est une très très belle réussite. C'est-à-dire, c'est vraiment la continuité de son travail en animation. C'est-à-dire que les courts-métrages qu'il faisait il y a 6 ans, bah là, c'est la suite. Et il se trouve que c'est vraiment très très réussi. Voilà.
C'est ça raconte l'histoire de 3 jeunes filles en parallèle.
Et je trouve que c'est vraiment très très réussi parce que, à tous les niveaux, c'est-à-dire que c'est sur une pagination qui n'est pas énorme, il arrive à être justement extrêmement efficace sur le fond, sur la forme. Et sans partir dans un surdécoupage, justement, comme on parlait là à l'instant, qu'on peut trouver dans le manga, quoi. Et voilà. Et pour moi, c'est vraiment un album très impressionnant à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il est bouclé. On sent qu'il y a un début, une fin. Il est vraiment conçu. Et, enfin, c'est un album, entre guillemets, solide. C'est un véritable objet. Y a pas grand-chose qui est laissé au hasard. Il y a toujours du hasard, mais là... C'est vraiment un bel album. Donc je pourrais pas. Après, c'est un petit peu subjectif, mais c'est la réalité. C'est vraiment un album que je trouve vraiment très très bon.
T'étais pas le premier à me le dire. Je l'ai pas encore lu, mais
tu verras. C'est un très très bon album. Et d'autant que je le dis, c'est que moi, je l'ai depuis qu'il est sorti, je l'ai pas relu. Moi, je l'ai lu il y a un an quand il l'a terminé, quand c'était encore sur les originaux. sur des feuilles A4, vraiment tout juste sorti de la plume et du pinceau. Et voilà. Et à l'époque, je l'avais trouvé génial. Et je l'ai pas, j'ai pas pris le temps de le relire, mais tous les gens qui l'ont lu me disent qu'il est génial. Donc, et finalement, j'en ai un bon souvenir. Non, mais c'est vraiment très très bien.
Ok, bah merci beaucoup, Bertrand.
Merci à vous.
Je suis avec Enrico Marini, l'auteur des Aigles de Rome. Bonjour, Enrico.
Bonjour.
Alors, tu viens de sortir le tome 3 des Aigles de Rome. Tu continues à travailler en... Comment... Donc, tu es dessinateur et scénariste. Tu t'es pas mis tout de suite au scénario. Tu as beaucoup travaillé avec d'autres auteurs. Pourquoi est-ce que tu t'es pas mis tout de suite? Tu avais un certain manque de confiance dans l'écriture?
Pourquoi je me suis pas mis tout de suite? Bah parce que j'ai eu des propositions tout le temps. Et ça, oui, ça a commencé il y a 20 ans. Donc, on m'a proposé des trucs, heureusement d'ailleurs. Et parce que j'aimais le dessin. Et parce que j'ai toujours quand même pu participer à la construction de l'histoire. Donc, il y avait toujours, enfin, pas tout avec tout le monde, mais normalement, il y avait du dialogue avec le scénariste. Je pouvais toujours amener mes idées. Et puis, j'ai toujours un petit peu adapté certaines choses à ma sauce, à ma manière. Donc, forcément, j'avais longtemps pas vraiment le besoin. J'étais content aussi apprendre ce métier et me concentrer sur la mise en scène, le dessin. Mais avec les années, c'est sûr que l'envie de consommer mes propres histoires, surtout d'être un peu indépendant, c'était une envie qui est née et qui est devenue de plus en plus grande. Je sentais que j'étais pas, voilà, que j'étais pas encore mûr pour ça, et donc voilà quoi, j'attendais le bon moment. Et puis fallait aussi que je sois libre de mes engagements, donc j'ai essayé de trouver la place, voilà. Et c'est comme ça maintenant, pour l'instant, j'alterne avec le Scorpion, et je fais, voilà, je prends le temps pour faire les Aigles de l'Homme.
Tu as fait de la SF, du western, du fantastique, de l'historique. Tu t'ennuies en restant dans le même genre? Il faut que tu changes tout le temps?
Oui, il faut que je change. Oui, régulièrement, oui. Oui, effectivement, je pense que ça me... Refaire un autre western, pour le moment, m'intéresse moins. Mais bon, ça, c'est envisageable peut-être dans le futur. Refaire un truc de KPDP ou une époque très proche du Scorpion, donc du 18e siècle, donc pour l'instant le 19e ou le 17e m'intéresserait pas trop, c'est trop proche du 18e, donc voilà, j'aime bien varier un petit peu. L'Antiquité s'y prêtait bien parce que bon, il y avait... Bon, ça remonte à différentes envies. C'est le cinéma, la littérature aussi qui m'a inspiré à faire les Aigles. Il y a un site romain aussi pas loin de chez moi qui m'a donné envie, où il se tient régulièrement, enfin une fois par an, une fête romaine, donc des à l'ancienne vraiment, avec des gladiateurs et des légionnaires et des marchés de l'époque, et à ce moment-là, c'était pour moi évident, hein, donc d'essayer ce terrain-là, mais je me vois pas du tout quelqu'un qui s'incruste dans une époque précise, enfin pour plus d'une certaine durée, quoi.
D'ailleurs, tu parlais des festivals romains, ça t'a beaucoup aidé au niveau de la documentation? Tu as beaucoup cherché au niveau costume, au niveau décor, au niveau des us et coutumes de l'époque?
Bah, ça m'a pas assez aidé, parce que ça m'a un peu aidé, mais malheureusement, on trouve pas ce qu'on a vraiment besoin. Heureusement, ça existe, heureusement qu'il y a la reconstitution historique. Là aussi, de temps en temps, je suis un peu en contact avec des gens qui font réellement la reconstitution. Sinon, oui, il y a des bouquins, il y a des vieux livres, des textes. Et malheureusement, au niveau d'image, on n'a pas assez de matériel. Donc, une grande partie est inventée sur base, bien sûr, de textes que j'ai lus. Ou si on essaye de rendre Enfin, j'essaye de rendre ça le plus crédible possible et logique. Et ça, mais ça me laisse aussi à la fois beaucoup de liberté. Jusqu'à présent, j'ai croisé 3-4 historiens qui m'ont dit que c'est ouais que ça fonctionne bien et qu'il y a pas des erreurs majeures.
Je sais pas si tu as vu la série Rome, où ils se permettent quelques libertés aussi historiques, parce que d'un point de vue scénaristique, au niveau de la narration, ça pourrait poser des problèmes pour que les gens comprennent ce qui se passe, ou ça risquerait d'être trop documentaire. Il t'est arrivé de faire des entorses historiques en le sachant, parce que ça te bloquait dans ton histoire?
Oui, je le fais, mais j'essaye de respecter quand même l'histoire, c'est-à-dire... De ce qu'on sait hein, de l'histoire, parce que bon, là aussi je me base sur des textes aussi parfois des auteurs qui ont vécu pas tous, mais ils n'ont pas tous vécu à la même époque. C'est des historiens romains qui ont peut-être vécu 60 ans après les faits que je raconte, donc forcément là aussi on ne peut pas non plus dire qu'ils étaient au courant ou qu'ils étaient témoins non plus de des faits que je raconte, mais en même temps, c'est ce qu'il y a de plus proche. Et puis, il y a d'autres personnages qui ont laissé quelques textes qui ont effectivement vécu l'époque. Donc, je consulte ça aussi, je tiens compte de ça. Donc, comme il y a pas mal de trous, je les remplis à ma façon aussi, et j'essaye de rester crédible, hein, notamment sous l'avis d'Aminius. On sait certaines choses, mais on sait pas énormément de choses. Mais on sait qu'il était officier romain, on sait que le général Varus, qui était envoyé à Rome avec en Germanie avec 3 légions, lui faisait pas mal confiance, alors qu'a priori il détestait les barbares. Donc, visiblement, ce personnage d'Arminius, qui est donc réellement existé, il avait un certain charisme et un certain poids. Et était un sorte de lien entre les tribus barbares et les Romains. Donc, je tiens compte de ça et j'essaye de pas trop modifier l'histoire. Donc, et de respecter ce qui s'est passé. Maintenant, comme quand même on n'a pas toutes les informations qu'on aimerait avoir, et ça laisse quand même un peu de place pour inventer. Et c'est des fois c'est frustrant parce qu'on aimerait avoir plus de documentation, en connaître plus sur ce qui s'est passé. Mais en même temps, il y a aussi, moi je me sens aussi beaucoup plus libre.
Au niveau du dessin, donc dans tes premières BD, tu étais très 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 marqué graphiquement par le style de Otomo. Tu es passé à la couleur directe avec le Scorpion, il me semble.
Ouais, avec Rapace et le dans les Gypsies aussi. J'avais dans les derniers Gypsies, j'avais fait la couleur directe et le Scorpion, oui.
C'était un moyen de te démarquer de tes influences, d'avoir une approche plus personnelle.
La couleur était toujours très importante pour moi, et j'étais toujours frustré de travailler sur des bleus. Donc, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que j'ose à faire la couleur directe, qui effectivement permet moins d'erreurs, mais qui est c'est beaucoup plus gratifiant et beaucoup plus plaisant à travailler à la couleur directe, quoi.
C'est quelque chose qui est remarquable entre le Scorpion et les Aigles de Rome, c'est les teintes justement au niveau des couleurs qui sont pas les mêmes. On est dans quelque chose de très lumineux dans le Scorpion, on est beaucoup plus dans quelque chose de doux, de tendre au niveau des coloris dans les Aigles de Rome. C'était pour marquer vraiment les ambiances, accentuer le côté épique du Scorpion.
Disons, la technique est la même, hein. Y a une légère différence. Effectivement, le Scorpion est un peu moins réaliste déjà, mais en tout, le traitement, l'histoire, enfin le scénario se veut aussi un peu plus populaire, un peu plus On s'inspire aussi des vieux films hollywoodiens, donc forcément tout est un petit peu plus exagéré. C'est un peu comme une pièce de théâtre, si on veut. Et les ectodomes, oui, ils sont. Enfin, je les veux aussi personnellement un peu plus réalistes. Physiquement, les personnages sont aussi un peu moins caricaturales. Enfin. Peut-être pas toujours, mais j'en sais. Enfin, j'essaye en tout cas d'avoir un traitement un peu plus, voilà, un peu plus réaliste, et puis peut-être un peu plus avec un trait un peu plus sauvage, quoi, un peu plus jeté, plus moins élégant que dans le Scorpion. C'est le sujet, c'est le genre, c'est le sujet qui m'impose, si on peut dire, le trait. Mais bon, il n'y a pas tellement de différence non plus. Mais effectivement, surtout dans le troisième, qui est situé en Germanie, où déjà le climat n'est pas très, favorable pour les Romains. Donc, il y a un climat qui est plus froid, il y a un climat plus sombre. Je voulais effectivement avec la couleur montrer ça. Je voulais un peu créer cette ambiance de un peu lourde, un peu grise et froide. Voilà.
Donc là, tu alternes les aigles de Rome et Scorpion. Donc ton prochain album, c'est un Scorpion, et ensuite tu repars sur les aigles de Rome. Pas de digression au milieu.
Oui, effectivement, le prochain Scorpion sera le tome 10 et un album très important d'ailleurs, parce qu'enfin on va découvrir l'identité de son père, le vrai père du Scorpion. Et donc c'est un album où il y aura plusieurs révélations, évidemment. Et puis après ça, ça va partir sur d'autres, évidemment, ça va créer forcément des nouvelles, comment on appelle ça, ça rend le tout beaucoup plus complexe, et des nouvelles constellations de personnages, des nouvelles relations se forment. Et donc c'est un album très important, et je suis personnellement aussi très très content qu'on y arrive enfin. C'est pas la fin de la série, mais c'est quand même, ça marque quand même une étape très très importante. Une sorte de règlement compte se fait, et donc voilà. Mais après, je suis très content de retrouver les aigles, parce que je suis un peu impatient de continuer l'écriture, et même oui, parce que j'étais bien parti là-dedans, et puis c'est vrai que j'alterne aussi. Parce que bien sûr, je ne veux pas quitter le Scorpion. J'aime bien la série et tout. Et puis aussi par respect des auteurs, des lecteurs, excusez-moi. C'est un respect pour les lecteurs qui nous suivent depuis tellement longtemps. Et j'aimerais bien avoir 4 mains pour aller plus vite. Malheureusement, je ne veux pas. Comme je fais presque tout, enfin pas pour le Scorpion, mais sur les aigles je m'occupe aussi des couleurs et tout, donc forcément, enfin le Scorpion aussi bien sûr, mais l'écriture me demande aussi pas mal de temps, et notamment aussi la lecture de la documentation, les bouquins que j'achète, la consultation à plusieurs niveaux, donc ça prend du temps, et une préparation qui est un peu plus importante sur les aigles que sur le Scorpion. Et forcément, ça va être bien de repartir sur les aigles, d'alterner en fait. Une fois que j'ai terminé les aigles, je suis toujours content de passer à autre chose, et effectivement, le Scorpion. À un moment, c'est presque des vacances. Même si je commence à en avoir vraiment ras-le-bol de dessiner des curés, des moines guerriers, tout ça, toutes ces robes, il y a des robes pour les hommes, et les filles aussi, ils portent des robes, donc il y a des robes partout. Et je commence à rêver de faire une série contemporaine pour dessiner finalement les gens en pantalon et en jeans, j'en sais rien.
En cuir comme dans Rapace.
Ou en short, peu importe, enfin, pour quitter ces robes, quoi, pour quitter ce monde. Voilà.
Y a des fins prévues sur ces histoires, enfin même à très long terme, mais il y a...
Oui, oui, bien sûr. A priori, Les Aigles, c'est conçu sur à peu près 6 albums. Et le Scorpion, en à peu près 16. Enfin, on n'a pas défini exactement le nombre, mais ça sera à peu près ça, quoi. Je vois une procession. Bonjour.
Alors... On est une émission, on partage beaucoup les BD qu'on a aimés. C'est quoi ton dernier coup de cœur en BD, la dernière BD qui t'est vraiment plu, que tu aies lu, si tu as le temps de lire encore des BD?
Effectivement, j'ai pas tellement le temps, malheureusement. Je lis pas mal de romans quand je peux et je regarde la télé ou je vais au cinéma. En bande dessinée, j'ai beaucoup aimé le Portugal de Pedrosa, qui est magnifique. Et puis j'ai lu l'une ou l'autre BD, mais qui ne vont pas la peine d'être citées. Et puis, mais au niveau de. Ouais, enfin. J'ai encore plein de BD, j'ai une pile de BD à lire à la maison qui devient de plus en plus grande. Donc j'attends de trouver le temps de lire ça. Et puis voilà.
Et c'est fini pour aujourd'hui. Et donc là, je suis dans ma chambre. Je m'apprête à me coucher car il commence à se faire tard. J'ai quasiment fini le montage de cette émission là en direct dont je parle. Demain, un programme très chargé avec 6 interviews. On devrait avoir Aurélien Maury, Stan Sakai, et là je fais un petit cri de midinette. Émile Bravo, Vincent Boujas et Hervé Toulouat, dont on avait déjà parlé pour Bloc 109. Chris et Sylvain Ricard qui vont nous parler de la revue dessinée, et Edith dont on reparlera bientôt quand on vous chroniquera La Chambre de Lautréamont. On devrait enchaîner avec la soirée révélation blog. Je vais essayer de vous faire un petit peu plus de reportages et de textes en direct live des moments où je parle. Et puis je vous dis donc à demain. J'espère que cette émission vous aura plu et que demain j'arriverai à la diffuser de la même façon. À bientôt, ciao.